humiliation. Et c'est devant toi que nous prions pour la famille. Et nous te demandons, Seigneur, de bâtir des familles stables, fortes, en accord avec ta parole. Et nous prions pour toutes les familles des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont menacés par le vent de l'ennemi, afin que tu puisses, mon Dieu, étendre ta main. Seigneur, nous voulons être cette église qui non seulement prêche ta parole, mais également garde le témoignage. Et aide-nous à garder ce témoignage en étant fidèles à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ta parole nous soit révélée ce soir. Inspire les paroles dans nos cœurs. Je te demande l'onction pour l'enseignement de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Le verset 7 au verset 8. Apocalypse, chapitre 19, le verset 7 au verset 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Ce soir, nous voulons parler dans notre grand thème sur la famille selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Nous voulons parler sur les fiançailles et le choix du conjoint. Si vous êtes déjà marié, gloire à Dieu, cela peut vous servir de base pour aider les personnes que vous pouvez rencontrer ou pour lesquelles vous pouvez être des modèles demain, des parrains. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas mariées, je demanderai vraiment votre attention, pour comprendre quelle est la pensée de Dieu concernant le mariage et le choix du conjoint. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui parle de la relation qui est censée exister entre Christ et son Église, qui est comparée à l'épouse. Nous sommes, en tant qu'Église de Jésus, l'épouse de l'agneau. Et depuis que Jésus est venu mourir à la croix pour nous, il a versé son sang, il nous a comme demandé en mariage. Et par le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes rentrés dans une forme de relation. Et cette relation présentement se présente comme une relation de fiançailles en attendant le retour de Jésus le jour de l'enlèvement pour ce qu'on appelle les noces de l'agneau ou encore le grand mariage. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 5, quand Paul parle du mariage, il dira « Et ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Il dit « Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. » Ainsi, nous comprenons que le mariage est aussi un mystère. Quand on parle de mystère, un mystère, c'est une vérité qui est cachée, qui est censée être révélée ou manifestée. Un mystère, c'est des vérités qui ne sont pas forcément accessibles facilement à tout le monde. Donc, il y a besoin d'une initiation, il y a besoin d'une connaissance par un expert ou encore par quelqu'un qui est illuminé pour te faire comprendre la profondeur de ce qui est caché. C'est ça la définition d'un mystère. Et nous comprenons à la lumière de la parole de Dieu d'Éphésiens 5 et de Apocalypse chapitre 19 que le mariage est un mystère. Le mariage est quelque chose qui est caché, que Dieu seul connaît la profondeur. Amen. C'est pour cela que si nous voulons avoir des mariages stables, fondés, des mariages heureux, épanouis, comme on l'a vu le mardi dernier, le vendredi de la semaine passée, les modèles de l'homme et de la femme selon le cœur de Dieu, nous devons toujours nous référer à la relation de Christ et de l'Église. C'est ça le modèle parfait. Il n'y a pas un autre modèle. Tout autre modèle en dehors de Christ et de l'Église, c'est un modèle erroné qui aujourd'hui malheureusement ouvre la voie à toutes sortes de séparations et de divorces. Amen. Alors les fiançailles, c'est quoi les fiançailles? Par définition, une définition tirée du latin, le mot fiançaille du latin, c'est confiare, confiare, avec C-O-N-F-I-A-R-E, confiare, parle littéralement, ou dit, signifie littéralement, confier à. Fiançailles, confiare, confier à. Ok? Et c'est réservé à un homme et à une femme. Donc, dans la pensée de confiare, nous voyons une déclaration d'intention de mariage. Fiançailles, quand on parle de fiançailles, nous voyons déjà des intentions pour aboutir à ce qu'on appelle le mariage. Une autre définition de fiançailles, c'est une promesse mutuelle de mariage. Une promesse mutuelle de mariage faite avec une certaine solennité. C'est quelque chose de solennel, pas quelque chose de caché, quelque chose de public que tout le monde connaît, voit. Une autre définition, toujours selon le dictionnaire des fiançailles, les fiançailles, c'est également une période qui s'écoule entre la promesse et le mariage. Le jour où, officiellement, on vous demande en mariage, et le jour où le mariage sera concrétisé, cette période-là s'appelle également fiançailles. Amen. Et dans l'hébreu, vous avez le mot, je vais quand même vous le donner, ça s'écrit K-E-L-U-W-L-A-H. K-E-L-U-W-L-A-H, qui est loula. C'est ça le fiançailles en hébreu, qui signifie littéralement épousaille. Et vous verrez que dans la pensée hébraïque, quand on parle des fiançailles, on parle déjà de pré-mariage. Et même dans la pensée hébraïque et dans la pensée divine, les fiançailles, on le verra, ne sont pas censées se rompre. Parce que c'est déjà quelque chose de solennel, officiel, tout le monde sait, et on n'a pas le droit, logiquement, de rompre les fiançailles. Et dans le grec, le mot utilisé pour fiançailles, ça s'écrit C-H-A, C-H-A-T-H-U-2-N-A-H. Je reprends, C-H-A-T-H-U-2-N-A-H. Ok? Amen. Ketuna, dans d'autres termes. Ça signifie littéralement noce ou encore mariage. Et dans la pensée grecque, quand on parle de fiançailles, on voit déjà les noces, on voit déjà les mariages. Alléluia. Ça, nous ne sommes pas encore dans la définition biblique. Je vais maintenant toucher la définition biblique du mariage. Alors, selon la Bible, les fiançailles sont d'abord un engagement sacré en vue du mariage. Je précise, il y a engagement et engagement. Mais le mariage, c'est comme un vœu que l'on fait à une personne. Et ce vœu-là, aux yeux de Dieu et aux yeux du monde, est censé être sacré. Amen. Amen. Les mariages sont aussi un temps de préparation au mariage. Quand on parle de fiançailles, on parle d'un temps de préparation au mariage ou encore aux noces. En d'autres termes, le mariage, plutôt les fiançailles, c'est le chemin vers le mariage. Quand on dit qu'on est fiancé, on est déjà en route. On ne peut plus faire demi-tour vers le mariage. C'est pour cela qu'il faut prendre son temps de bien réfléchir avant de pouvoir déclarer que je suis fiancé. Amen. Dans le temps d'adoniment, il n'y a pas de problème. Ça peut ou ne pas marcher. Mais une fois que c'est officiel, nous devons comprendre que ça devient un engagement sacré. Amen. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Alléluia. Alors, étant donné que Dieu a créé l'homme à son image et la femme a été créée, l'homme à l'image de Dieu, également pour la gloire de Dieu, nous dit 1 Corinthiens, mais la femme n'a pas été créée directement pour la gloire de Dieu. La femme a été créée pour la gloire de l'homme. La raison pour laquelle elle doit se préparer pour que l'homme vienne la chercher. De la même manière, nous en tant qu'église, nous nous préparons pour que notre époux qui est Christ fasse quoi ? vienne nous chercher. Et une grande partie de la préparation incombe à la femme. Parce qu'elle doit se préparer. L'homme est censé être prêt. Mais la femme doit prendre le temps de se préparer pour accéder au mariage. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Donc le temps de célibat, c'est un temps qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ce n'est pas le temps qu'il faut être, il faut prendre pour se lamenter. Mais c'est un temps qu'il faut prendre pour se préparer. Car beaucoup se lamentent, ils n'ont pas encore d'hommes, ils n'ont pas encore de femmes, mais ils ne prennent pas ce temps-là pour se préparer. Et au moment où soit l'homme vient ou la femme vient entrer dans la vie, ils veulent maintenant commencer la préparation et beaucoup de frustrations arrivent. Donc prends le temps où tu es seul, où il n'y a personne, où on ne t'a pas encore demandé en mariage, où tu n'as pas encore les moyens, les capacités de prendre une femme en mariage, de pouvoir te préparer. Alléluia. Ainsi, le célibat ne sera pas pour toi une malédiction. Parce que beaucoup pensent que le célibat, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. C'est un temps où simplement tu n'es pas engagé. Viendra un temps où l'engagement, tu seras engagé. Amen. Deuxième point que j'aimerais aborder ce soir, c'est comment se préparer pour le mariage. Comment se préparer pour le mariage? Je vais d'abord toucher l'aspect de la femme. Et ensuite, je parlerai de l'homme. Alors, vous devez comprendre que la préparation au mariage commence d'abord dans la famille dans laquelle tu es issu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes, en parlant des femmes, pour le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'ont pas vécu dans le cadre de famille. On a vécu seul. Et quand c'est comme ça, vous allez voir qu'on cumule beaucoup de manquements, beaucoup de défauts, beaucoup de choses qu'on n'a pas apprises, tout simplement parce qu'on n'a pas été dans une famille. Et cela, si on ne fait pas attention, pourra avoir des préjudices dans le mariage à plus tard. Donc la famille, c'est pourquoi les chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, vous qui êtes là, qui êtes mariés, qui avez une famille, comprenez que la famille que vous avez, c'est un cadre d'entraînement, de préparation pour le mariage de vos enfants demain. Alléluia. Oh, beaucoup de personnes aujourd'hui sont issues de familles monoparentales. D'autres encore des familles qui ont été brisées par le divorce, par les séparations. Il y en a encore par le décès d'un des parents. Toutes ces choses, ça peut arriver. Mais il faut quand même demander à Dieu, si on est dans ce cas-là, que Dieu puisse combler le vide. Pour qu'il y ait équilibre, pour le préparer la fille à l'éventuel mariage. Donc comprenez que la présence de la famille, être dans une famille, est très importante. Amen. Amen, amen, amen. Oh, dites-moi amen.
Amen.
Oula, vous êtes trop calme. Donc très importante pour l'épanouissement et recevoir également une bonne éducation pour demain être une bonne femme dans le mariage. Très souvent, on apprend de ce que l'on voit. Une femme, une fille dans la famille aura pour modèle direct sa maman, sa mère. Alléluia. C'est pourquoi toi, garçon, si tu veux épouser la femme, regarde aussi le comportement de la maman. Ça joue aussi. Hein. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Non, c'est la vérité. Même si elle ne va pas copier tout, mais il y a quand même une influence. C'est pourquoi la famille est très importante. Alléluia. Et dans le cadre de la famille, la fille, la jeune fille va recevoir ce qu'on appelle l'éducation de base. Et beaucoup, malheureusement, veulent se marier, mais n'ont pas l'éducation de base. Le savoir-vivre et le savoir-faire, il y en a qui ne savent pas. Amen. Donc, quand ta maman t'impose certaines choses, au lieu d'être rebelle, apprends. Parce que demain, tu seras mère. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui sont trop rebelles aux parents. Elles pensent que les parents sont SDR, elles appellent la daronne, la vieille là. Ok, c'est une vieille, mais elle a de l'expérience. Alléluia. Ah mais ouais, écoute, vas-y, la daronne là, elle pige rien. Mais, alléluia. Elle veut t'apprendre le savoir-vivre et le savoir-faire parce que demain, tu vas apprendre à gérer non seulement ton mari, mais également les enfants, la famille. Et ça, ce n'est pas facile. Et demandez aux jeunes filles qui sont mariées, qui deviennent mères, elles vous diront qu'à partir du moment où elles sont devenues mères, elles ont compris maintenant pourquoi leur mère était très sévère avec elles. Amen. Et la famille est très importante pour apprendre également la soumission. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui, ça excusez-moi de le dire, je suis contre cela, très contre, à moins qu'il y ait des raisons vraiment valables, qui veulent sortir du cadre de la famille pour aller vivre seules. Et ça, malheureusement, ça devient comme une mode. Moi, à mes 18 ans, j'aurai mon appartement. Pourquoi? Oh. Alléluia. Pourquoi? Selon le plan de Dieu, on vient chercher la femme chez elle à domicile. Je peux t'encourager à, quand tu es mature, tu as les moyens, acheter ton appartement, c'est un investissement. Gloire à Dieu. Mais à y vivre seul, non. Parce que souvent, c'est la porte à tout. Tu vas apprendre à ce qu'on appelle une vie indépendante. Et quand le mari vient, il va te dire, fais ça. Ah non, 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 moi j'ai appris avec votre... Oh, mais oui, non, 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 c'est pas comme ça le mariage. Le mariage, tu dois apprendre certaines règles. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ça va jusque là? Donc je suis contre cela. Moi d'ailleurs, je dis à mes enfants, aucune ne partira. Pas le garçon. Lui, il doit être... Quand il aura l'âge, il faut qu'il ait son appartement. Déjà, dès qu'il finit, il va finir son bac plus 5. Je leur ai dit, minimum, c'est bac plus 5. Minimum. Ou sinon, vous allez plus loin. Mais dès que tu finis tes études, tu trouves un chez toi. Ici, c'est pas chez toi. Vous savez, à leur âge, je leur dis déjà ça. Je les prépare. Mais les filles, non. Il y en a qui vont dire, mais oui, je vais faire comme une de mes tatas. Je dis, pas question. Tu sortiras d'ici. Amen. Amen, 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 amen. Cependant, je pourrais t'encourager à investir. Tu peux investir. Ça ne coûte rien de pouvoir investir. Acheter, tout ça, ça c'est autre chose. Mais aller vivre seul pour une vie indépendante, ça en tant que enfant de Dieu, selon le concept de la parole de Dieu, ce n'est pas biblique. Maintenant, il y en a qui sont ici, qui n'ont pas de famille, qui se sont retrouvés à la rue, elles sont seules, ce n'est pas un péché. Comprenez très bien mon langage. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Bien. Et pendant le temps où la femme est dans le cadre de la famille, elle doit tailler son caractère. Elle doit tailler son caractère vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de ses frères et sœurs, même vis-à-vis de l'extérieur. Tout ça dans le but de se préparer pour le mariage. Frères, sœurs, si aujourd'hui le nombre de divorces ne fait qu'augmenter, ne voyons pas seulement le côté démoniaque. Il n'y a pas que les démons. Il y a aussi un manque de préparation. Il y a aussi un manque d'encadrement, un manque de cadre adéquat qui favorise ces choses. Les choses et les valeurs que nos parents, il y a autrefois, centaines d'années passées, avaient, aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, les gens sont livrés à eux-mêmes. Nous, à l'école, je me rappelle quand j'étais petit, on avait un cours qu'on appelait l'éducation civique et morale. Aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Non, moi, je ne dis pas Dieu pour tous, Satan pour tous. Chacun pour soi et débrouillez-vous. Parce que si on veut dire Dieu pour tous, on doit revenir dans le cadre de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des problèmes. Amen. Amen, 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 amen. Se préparer. Et pendant le temps où elle est célibataire, elle doit faire confiance à Dieu. Elle doit servir Dieu. Elle doit commencer à se préparer. Elle doit, pour nous qui sommes enfants de Dieu, être d'abord engagée à Dieu. N'épousez pas, les frères, des femmes qui ne sont pas engagées à Dieu. Je vais en parler par rapport aux critères tout à l'heure. L'engagement vis-à-vis de Dieu, c'est un signe pour vous aussi que la personne pourrait être engagée vis-à-vis de vous. Parce que si on peut s'engager vers un Dieu qu'on ne voit pas, on peut facilement aussi s'engager vers un homme qu'on voit. Amen. Amen, amen. Ne devenez pas des intercesseurs dans le mariage. Donc, prenez considération de tout ce qui se dit. Amen. Alors, trois domaines pour lesquels la femme, la jeune femme, doit se préparer, comment elle se prépare tout au long de ce temps de célibat. La première des choses, c'est que la femme doit avoir une relation intime avec Jésus, une relation personnelle, dans une communion intense avec le Seigneur. Frères et sœurs, la relation avec Dieu est plus importante que toute autre relation. C'est même la base. Or, beaucoup de personnes négligent la relation avec Dieu et favorisent les relations humaines. D'abord Dieu, les hommes après. Donc, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Soigne ta relation avec Dieu. Deuxièmement, tu dois apprendre à avoir les bonnes relations autour de toi. Parce que le mariage concerne une vie relationnelle. Et dans les relations, on n'a pas tous le même caractère, les mêmes origines, la même éducation. On n'a pas tous évolué dans le même milieu. Donc, il risque d'avoir des chocs au niveau de relations. Et surtout pour les couples qui sont mixtes. L'homme est français, la femme est africaine. La femme est africaine, le mari est antillais. Ou il est réunionnais, ou je ne sais pas quoi. Haïtien. Alléluia. Quand on regarde bien, on n'a pas tous la même culture. Et comment vivre ensemble? Comment mettre ensemble, concilier deux cultures différentes? Même dans chaque pays, les cultures divergent. Divergent. Même dans un pays comme la RDC, d'où je suis originaire, il y a plusieurs ethnies et chaque ethnie a sa culture. Il y a des particularités. Comment vivre ensemble? Et ça, c'est important. De travailler le côté relationnel. Amen. Amen. Troisièmement, ce qu'il faut également préparer, c'est la femme doit se préparer aussi dans ses activités. Tu ne peux pas te dire, bon, moi je veux plus travailler parce que j'attends le mariage. Non. Il y a des gens qui disent, moi je ne veux plus étudier parce que j'attends le mariage. Non. Pendant le temps où tu es seul, où tu es dans le célibat, c'est le temps que tu vas également maximiser dans les études, maximiser dans le travail, maximiser dans tout ce que tu peux faire. Le mariage ne doit pas être un frein pour t'empêcher d'aller plus loin. Et la femme que tu es, tu dois également te préparer à devenir une aide. Comme on a dit, la femme n'est pas devant, elle n'est pas derrière, elle est à côté. Donc, tu dois te préparer à cela en ayant une bonne discipline. Soit en étant aimable vis-à-vis de ton mari, de ton futur, parce que là, il n'existe pas encore. Il est quelque part dans la pensée de Dieu. Mais tu dois déjà te préparer à ça. Mets-toi déjà dans les conditions. Si jamais mon mari me disait, est-ce que je vais dire oui? Comment déjà travailler? Est-ce que je serai une femme vraiment soumise? Est-ce que je serai vraiment loyale? Est-ce que je serai fidèle? Est-ce que je serai serviable? Quand je rentre du travail, est-ce que je vous dirai, écoute, moi aussi j'ai travaillé, toi va te servir à la cuisine? Non! Même si vous deux, vous avez travaillé, c'est le rôle de la femme de venir servir le mari. Amen. Dites amen. Amen. Alléluia. C'est chaud, hein? Et surtout ici. Ah ben écoute, tu as travaillé, moi aussi je travaillais. Hein? Va te servir, il y a les casseroles là-bas, va dans la cuisine, sers-toi. Non! Après, quand le mari fait, je n'ai pas compris, parce que pour moi, ma tante au pays, vraiment, j'ai des démons qui m'attaquent. Pas les démons, ton comportement, ton attitude. On m'a envoyé une publication sur Facebook. C'est un peu pour montrer un peu comment est-ce que les femmes des fois mariées négligent leur mari. Le mari n'est pas bien entretenu à la maison. Et elle a trouvé un petit chéri dehors, quoi. Et maintenant, le petit chéri lui donne le biberon. Il dit, mon bébé boit. Ma chérie. Amen. Et il était là comme un petit bébé. En fait, les hommes, en réalité, sont comme des petits bébés. Amen, les femmes. Est-ce que les femmes sont là? J'entends pas les femmes, là. Je n'entends pas les femmes. C'est des petits bébés. Donc prenez-le comme le petit bout là, biberon. Arlette, tu prends un trésor, tu comme les bonnes, Maïron, tu donnes le bibi. Bois, chérie. Alléluia. Ça paraît rien, ça fait rire. Mais c'est des réalités simples qui comptent. Amen. Gloire à Dieu. Et pendant ce temps, la femme doit se préparer aussi à pouvoir bien gérer sa maison. C'est pour ça que quand tu es dans la maison chez tes parents, quand on te dit va faire la vaisselle, ne boude pas. Ah mais moi je vais faire, comme on est quatre, moi je fais lundi, je ferai encore vendredi, parce que chacun a son tour. Non! Parce que quand tu seras dans le foyer, il n'y aura pas de tour. Oh, vous m'entendez? Pas la mentalité soi-disant européenne, la occidentale, qui est contre la parole de Dieu. La femme, on l'a vu, est attachée aux soins domestiques. C'est la Bible qui le dit. Tu fais le ménage une fois par mois. Il y a un problème. Les poussières partout, il y a un problème. Tu dois apprendre à bien gérer la maison déjà maintenant. Gérer la vaisselle, gérer la lessive, gérer la maison, la propreté, toutes ces choses. Ça s'apprend quand on est chez les parents. Nous, avec ma femme, je vois comment elle entraîne les enfants. Il faut continuer comme ça. Pas question de tout. Si on est demain, tu fais, point. Je vois aussi comment aujourd'hui, on est dans une génération, on ne sait plus qui est qui, avec le slogan « l'émancipation de la femme ». Qui t'a dit ça? C'est pas biblique. C'est pas biblique du tout. Donc apprendre pour que la femme ne soit pas oisive et encore moins paresseuse. Cependant, l'homme doit aider sa femme. Amen. Voilà. Cependant, j'ai dit bien cependant. Voilà. Cependant, on aide sa femme. D'accord? Moi, quand on a eu des enfants, il y avait des nuits où je faisais des nuits blanches. Il dit, va dormir. Moi, je restais en prière toute la nuit. J'étais intercesseur forcé. Toi aussi, vraiment. Ah! Tu vas changer la couche. Tu fais les courses. Oui! Quand je peux, ma femme, elle peut le témoigner. Je fais des trucs à la maison. Chez moi. Un homme de l'intérieur. Pasteur, oui, mais à la maison, je suis à Marie. Je sais gérer ma maison. Amen. Mais elle ne va pas me dire, maintenant, le ménage n'a pas fait, pourquoi tu n'as pas fait le ménage? Non, elle ne peut pas me dire ça. Moi-même, je sais que je dois le faire pour l'aider, pour l'aider. Mais la charge lui est incombe. D'accord? C'est sa charge à elle. C'est sa mission. Je vois les frères sont contents. Les frères sont très contents. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais soyez aussi des vrais hommes. Il y a des hommes, il y a des omelettes. Et des vrais hommes, amen. Bien gérer la cuisine, savoir cuisiner. À la maison, maman doit t'apprendre à cuisiner. À partir de 12 ans, tu dois savoir cuisiner. Parce qu'en Israël, lorsqu'on atteint l'âge de 12 ans à 13 ans, c'est la bat mitzvah, on devient un adulte. Donc c'est terrible de voir les jeunes filles de 17 ans, même les pâtes qui ne savent pas faire. Mais ça fait les ongles. Ah non, là, limer les ongles là, waouh, avec toutes sortes de vernis. Non, tu dois savoir faire la cuisine. Amen. Amen, amen, amen. Non, c'est très important. Toutes ces choses, ça s'apprend dans le cadre de la famille. C'est pourquoi vous qui êtes déjà, vous fondez la famille. Merci Seigneur pour Jonathan et Florence qui vont concrétiser la dernière phase. Ils ont déjà fait la dot, tout ça. Dernière phase ce week-end. Les enfants que Dieu vous donnera, vous devez les entraîner. Amen. Et ce que vous n'avez pas eu, donnez-leur. Amen. C'est pourquoi l'Église est là pour rattraper ces choses, les manquements. Il y en a qui ont évolué seuls, des électrons libres. Ok? Mais quand on vient à Jésus, Dieu nous met dans un cadre pour nous aider, pour assurer aussi le lendemain. Amen. Amen, amen, amen. Et pendant ce temps, la femme veille aussi sur son langage. Ok? Ne pas avoir de langage de légèreté. Parce que ce qu'elle fait à la maison, elle le fera à son mari. La légèreté dans le langage, très important. Quand tu parles, avec quel ton? Tu dois être poli. Un homme n'aime pas qu'on lui crie dessus. Toi, tu cries sur tout le monde. Tu penses que ton mari, c'est ton petit frère. Non. Même si tu es plus âgé que lui. S'il y a des mariages où la femme est plus âgée que le mari, ça peut arriver. Quelqu'un me dit, est-ce que c'est biblique? C'est biblique. Alléluia. Amen. Tu ne lui cries pas dessus.
Hé, hey, toi, bien sûr.
Non. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre à écouter. Car beaucoup de femmes aiment parler. Est-ce que tu es prête à écouter? Écouter sincèrement, attentivement, dans le but de comprendre. Amen. Et la femme doit aussi se préparer par rapport à sa féminité. Savoir que quand tu vas te marier et quand tu vas avoir des enfants, il risque d'avoir des modifications sur le plan morphologique. Donc toi qui aimes bien être minette, demain, si tu as 3-4 enfants, ça peut changer. Tu peux devenir... Mais tu dois déjà te préparer. Alléluia. Non, c'est des choses qu'il faut savoir. Tu ne resteras pas comme ça. Et je t'annonce. Il fallait voir ma femme avant. Elle a changé. Mais elle est bien comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Non. Soyons honnêtes. Moi, je n'aime pas prendre des exemples ailleurs. Je prends mon exemple. Et si je prends ton exemple, tu risques d'être vexé. C'est pourquoi il parle de moi. Je parle de moi-même. Attendez, prochain mariage, je vais mettre nos photos. Quand avant, le jour du mariage, et maintenant, vous allez dire, ah là là, Rabash, tu vas dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a soutenus. Amen, amen. Tu dois te préparer. Quand tu vas donner le sein à tes enfants, excuse-moi, ça ne va plus rester des grenades. Ça va tomber un peu. Il y en a qui disent, non, je vais faire la chirurgie. Bon, ça c'est entre toi et ton mari. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Apocalypse dit, son épouse s'est préparée. Donc, l'épouse doit se préparer. Le verbe préparer signifie rendre prêt pour un usage ou encore pour une action. Tu dois te préparer pour le mariage, pour entrer dans le mariage. Tu dois te préparer pour vivre à deux. Il y a une différence entre vivre seul et vivre à deux. Quand vous vivez à deux, je vous assure, il faut vraiment se supporter. Si tu ne connais pas le verbe supporter, tu vas l'apprendre dans le mariage. Où irai-je loin de ta face, ma femme? Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Oui, où iras-tu? Oh non, moi je rentre chez mes parents. Il n'y a pas ça. Et vous, parents, n'acceptez pas une jeune fille. Oh non, moi j'ai fait du mariage, je rentre chez moi. Je vais te prendre. Merci, maman. Viens. Je te dépose chez ton mari. Tu es marié, non? On a vu dimanche, l'homme quittera quoi? Son père et sa mère s'attachera à sa femme. Le cordon est déjà coupé. Tu viens quoi faire quoi? Mettre la glue, toi, pour que le cordon revienne? Non, tu restes là. C'était ton choix. Et malheureusement, les parents encouragent aussi ça. Ah non, pourquoi on traite mon enfant comme ça? Des fois, ton enfant est impoli. Et au lieu de la corriger, tu ne corriges pas. Et parce que c'est ton enfant, tu prends parti. Non. Il faut être correct. Il faut être juste. Même si c'est ton enfant, s'il a mal agi, tu dois le réprimander. Amen. Amen, amen, amen. Se préparer à la pensée de toilettage. Quand vous lisez la vie d'Esther, Esther 1, Esther 2, lorsqu'elle devait se marier avec le roi, la Bible dit parmi les jeunes filles qui ont été sélectionnées, qui ont été, qu'on a présentées au roi, le choix du roi était tombé sur Esther. Et qu'est-ce qu'on a fait? Esther s'est lavée, Esther s'est frottée, Esther s'est parfumée, Esther s'est parée pour la présenter au roi. Et c'est ça. C'est tout un travail. Quand on lave, on enlève les saletés. Donc tu as des saletés qu'il faut enlever par la parole qui est le savon. Alléluia. La parole de Dieu nous lave, nous nettoie. Te dit que non, là c'est pas bon. Pour changer, pour que demain tu sois la femme selon le modèle de Dieu pour un mariage heureux et épanoui. L'ornement, Dieu doit t'orner des vêtements de fête. Amen. Troisième point, le choix d'une épouse. La femme doit se préparer. Maintenant, l'homme aussi doit se préparer pour choisir l'épouse. Là, je vais toucher maintenant le cas des hommes pour en ce qui concerne les fiançailles. Alors, l'homme, pour se préparer, il doit comprendre qu'il est, il doit être responsable. On l'a vu, ce n'est pas un garçon, mais ça doit être un homme. Un garçon, il est encore sous la charge de ses parents. Toi, tu veux te marier, tu n'as même pas un lit. Et un problème. Amen. Amen. Parce que c'est l'homme qui prend en charge la femme. Ça peut arriver parce que tu passes peut-être par un moment de disette, d'accord? Ça peut arriver. Mais comprends ce que je veux dire. Dans la pensée, tu dois être capable d'assumer des responsabilités. Une fois que le moyen, tu as le moyen de les assumer. Il y a des gens qui ont des moyens de les assumer, mais n'assument aucune responsabilité. Ce sont des gamins. Et le mariage, ce n'est pas pour les gamins, c'est pour les hommes. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, pour le choix concernant la femme, là je parle aux hommes, tu dois comprendre que, déjà, le mariage c'est la volonté de Dieu, ça c'est un, on a déjà vu ça, je répète encore. Ne va pas choisir parmi les femmes étrangères. En d'autres termes, ne va pas choisir parmi les païennes. Parce que le mariage ce n'est pas de l'évangélisation. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, demain, ne m'emmène pas un frère, pasteur, vraiment, je crois que Dieu va le toucher avec. Parce que toi, tu as la puissance, avec tes prédications, vraiment, je crois que. Si j'ai déjà eu trois cas ici, comme ça, j'ai dit non. Faites attention. Le mariage, ce n'est pas les. Ce n'est pas. Non, non, répétez ça avec vos propres mots. Le mariage n'est pas les. C'est des sœurs terribles, hein? Tellement qu'il avait déjà pointé un monsieur dehors. Il fait tout. Parce que la femme a une puissance de persuasion terrible. Et il vient ici et puis il dit, fais ça à moi comme si tu veux m'en convertir. Comme ça, le pasteur va dire, il va pas dire non. Je connais mon pasteur, lui, vraiment, il est strict. Non, comme ça, il va accepter. Non, mais c'est pas ça. Même si j'accepte, mais c'est pas moi qui vais vivre dans le mariage avec toi. Donc, tu dois comprendre ces choses. Amen. Amen, 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 amen. Alors, ce n'est pas parce que tu as eu un enfant hors du mariage que tu es obligé d'épouser cet homme-là ou cette femme-là. Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais tu n'es pas obligé. Car il y a des personnes qui, ayant commis des erreurs dans le passé, pensent qu'à cause de ces erreurs, ils doivent rester forcément dans cette union-là. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça peut être ça, tout comme ça ne peut pas être ça. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Le mariage avec un non-croyant n'est pas une bénédiction venant de Dieu. Parce que Dieu ne tolère pas le mélange. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Pourquoi? Parce que quand tu épouses un non-croyant ou une non-croyante, vous allez avoir des divergences. Vous allez avoir beaucoup de conflits. Beaucoup de tensions, beaucoup de disputes et des incompréhensions. Lui veut A, toi tu veux B. Vous faites comment? C'est pour ça que je vous propose quelques textes que vous allez lire, si vous avez le temps. Deutéronome chapitre 7, versets 3 à 4. Notez ça, c'est très important ces textes. Deutéronome 7, versets 3 à 4, nous dit qu'il ne faut pas épouser les gens qui ne sont pas de la race d'Israël. Malachie chapitre 2 verset 11, Malachie 2 verset 11, Esdras chapitre 9 verset 2, Esdras chapitre 9 verset 2, ne pas mêler la semence sainte avec d'autres peuples, nous dit Esdras, parce qu'il y a eu un moment où il y avait mélange en Israël, et Esdras en tant qu'un véritable scribe se levait pour condamner, Esdras chapitre 9 verset 2, cela, cette pratique. Parce qu'il y avait mélange. Et quand il y a un mélange comme ça, le feu du réveil s'éteint. C'est quand vous voyez, quand ils jouent, ils épousent les non-croyants, ils n'ont plus le même zèle, ils n'ont plus la même motivation. Ils sont en train de mourir spirituellement. Pourquoi? parce qu'ils se sont engagés pas avec la personne qu'il faut. 2 Chroniques chapitre 21 verset 6. Là, il est clairement dit que épouser un païen déplaît à Dieu. Dieu n'est pas content lorsqu'on épouse un païen. Ça déplaît à Dieu. 2 Chroniques 21 verset 6. Et ça attire même le châtiment divin. 1 Corinthiens 15 verset 33 que vous connaissez. Les mauvaises compagnies corrompt les bonnes mœurs. Amen. Ainsi, pour qu'un homme puisse se marier ou vouloir épouser une femme, il doit être mature. L'homme doit être mature. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Et là, il pense que parce que quelqu'un a 40 ans qu'il est mature, vous pouvez avoir un jeune qui a 22 ans plus mature qu'un vieux papa qui a 45 ans immature. Amen. Ça, c'est très important. L'homme doit être mature. Et il doit être prêt sur le plan psychologique. Parce qu'il y a des changements qui vont arriver. Et quand tu es seul, tu fais ton programme comme tu veux. Mais quand tu as une femme, tu as des enfants, tout change. Ton organisation change. Tes priorités changent. Donc psychologiquement, il faut être préparé. Spirituellement, il faut être préparé. Matériellement, il faut être préparé. Faites pas comme certains parents en Afrique. Ils vont avoir des enfants, ils vont pondre des enfants comme on pond des œufs. Mais incapables de les suivre. Ils les mettent au monde pour que les oncles en prennent charge, en prennent la charge. T'as un problème, papa, le Minerval, on demande des frères scolaires. Ah, allez voir votre oncle. Oh, est-ce que je suis le fils à l'oncle ou je suis ton fils? Le père doit être capable de pourvoir aux besoins de ses enfants. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? La maturité est être prêt avant d'aller chercher une femme. Et on cherche la femme comment? Pas en faisant le tirage au sort. Les frères, on ne fait pas le tirage au sort. Alléluia. On cherche d'abord la femme dans la prière. Cherchez la femme dans la prière. Dites avec moi les hommes, la prière. La première des choses, tu dois prier. La deuxième des choses, après avoir prié, tu dois regarder. Il y en a qui prient, qui croisent les bras. Regarde. Amen. Les hommes, ouvrez les yeux. Y a-t-il des célibataires? Que les hommes ouvrent les yeux. Je regarde Congrès. Ouvre les yeux, Landry. Ouvrez les yeux. Quand je dis ouvrez les yeux, ça veut dire observez. Ne prenez pas non plus n'importe qui. Regardez son caractère. Regarde son engagement vis-à-vis de Dieu. Moi, quand si tu es une femme, enfin, heureusement, je suis marié. Mais moi, si je n'étais pas encore marié et que je voyais qu'elle n'était pas engagée, je ne savais pas la prendre. Mais tellement qu'elle était réservée pour moi et qu'elle m'aimait aussi, des fois elle venait à l'église pour moi. Enfin. Ça c'est moi qui dis, hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Comme elle n'a pas la parole, elle ne peut rien dire. Amen. Mais je regardais, frère, j'étais là. Je vous donne mon témoignage. J'avais plusieurs soeurs, j'étais déjà pasteur. Plusieurs soeurs qui avaient des vues sur moi. Parce que quand tu es pasteur, oulalala, faut être marié, hein. Oh, oh. J'avais des visions. Juste, on vient me voir. Je t'ai vu, j'avais une robe de mariée avec toi au marché. Des visions. Une même tellement que elle avait trop de visions sur moi. Moi-même, j'ai eu un songe que je l'ai épousé. J'ai dit non, sans effet. Non. Parce que à force qu'on te répète la même chose, ça peut rester aussi. Et puis toi aussi, tu dis sans effet. Mais quand je l'ai vu, j'étais convaincu. Il dit, ah, cette fois-ci. Et voilà. Et voilà. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Psaume chapitre 32, verset 8. Dieu dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Attends les instructions de Dieu. Ne va pas charnellement. tu risques de te tromper lamentablement. Et c'est l'homme qui cherche. Dans Matthieu 7, il est dit, cherchez et vous trouverez. Donc quand tu cherches dans la prière, tu vas trouver. On donne à celui qui cherche, trouve. Oui ou non? Proverbe chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Cela veut dire, pour trouver, il a dû chercher. Comment? Dans la prière d'abord, dans l'observation et aussi dans les renseignements. Va te renseigner sur son témoignage. Alléluia. Ne soyez pas trop spirituel. Renseignez-vous aussi autour. Amen. Tu auras des pistes. Dieu va te donner des pistes. Proverbe chapitre 19, verset 14. La Bible dit, tu peux hériter de tes parents des richesses, de l'argent, mais pas une bonne femme. Il y a des gens qui sont issus de familles très riches, mais ils souffrent dans leur mariage. Parce qu'avoir une bonne femme, c'est un don de Dieu. Amen. Alléluia. Et si nous donnons ces enseignements, c'est pour aider nos frères et sœurs et tous ceux qui nous suivront, qui nous suivent via les médias, les aider à pouvoir faire des bons choix pour être heureux. Amen. Bien. Alors, vous devez savoir que choisir, le choix d'une femme est très important. En fait, c'est le deuxième choix qui vient, la deuxième chose la plus importante qui vient après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la qualité de la vie chrétienne que tu vas mener dépendra de ton choix. Même la qualité du ministère que tu vas exercer dépendra de ton choix. Tu es bien marié, tu vas bien exercer le ministère. Tu es mal marié, tu vas mal exercer le ministère. C'est pour cela qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux. Amen. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées de Dieu, hommes aussi bien que les hommes que les femmes, mais qui ont fait des mauvais choix, malheureusement, qui souffrent et ont beaucoup de difficultés en termes de ministère. Pourquoi? Parce que le choix n'était pas tout à fait bon. Alléluia. Amen. Alors je déconseille, s'il vous plaît, jeunes frères, ne faites pas le mariage par le tirage au sort. Je veux trois sœurs ici. Rapidement, trois sœurs. Vite, 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 trois sœurs. Trois jeunes sœurs. Venez vous deux. Viens, viens, viens. Trois, venez. Ok, il y a mes trois filles qui sont là. Il y a Evodie. Alors je précise qu'elles sont célibataires. Il y a Gina et il y a Hilary. Ok, tournez-vous comme ça. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Vers moi. Ok. Ah, j'aime bien Gina. J'aime bien Evodie. Ah, Hilary, mais ouf. Bon. Alors, le tirage au sort. Je jette l'hameçon là. Je jette l'hameçon là. Je jette l'hameçon là. Et on attend maintenant qui va mordre le premier. Hein? Est-ce que je peux prêcher? Parce qu'il commence à avoir beaucoup de jeunes. C'est comme ça que ça marche. Souvent, il y a des jeunes. Ils pêchent. Ils pêchent. Ils pêchent. Mais il attend. Alléluia. Ou encore, fico, fico, fio. Coco, mannequin, fico, fico, fio. Ah! Merci, allez vous asseoir. Alléluia. Ce n'est pas comme ça. On ne fait pas le tirage au sort. Oui. Même l'enfant confirme. Amen, évangéliste. Alléluia. Mais il faut prier. Quand tu pries, Dieu te donnera l'orientation. Dieu te montrera ou te mettra une conviction ou voire même te révélera la femme qu'il te faut. Et s'attendre à Dieu pour que Dieu la touche aussi. Amen. Parce que Dieu connaît parfaitement le besoin de l'homme. Et il sait parfaitement qui est la bonne personne pour toi. Alléluia. Donc ne faites pas des recherches désespérées. Je connais quelqu'un qui, lui, voyageait dans le monde, cherchait la femme idéale à épouser. Il va à Dubaï, il va en Asie, il va en Amérique, il va dans les îles à la recherche de la femme. Et vous verrez que très souvent, Dieu, pour vous faire rencontrer la personne, la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Il va créer lui-même des temps, des circonstances, des événements. Ça peut être dans une fête de mariage, ça peut être à l'église, ça peut être je ne sais pas où. Amen. Quoique j'aime quand même que ça soit à l'église. Hein. Alléluia. Mais il est maître des temps et des circonstances. Peut-être que tu vas visiter une église quelque part et puis là, toi, tu dis, ma présence ici, c'était pour quelque chose. Au nom de Jésus. Ça arrive. Dieu est souverain. Amen. Abbé dit, il fait toutes choses belles en son temps. Très bien. Quatrième point que j'aimerais évoquer. Je vais aller vite à cause du temps. Le choix de l'épouse d'un sacrificateur selon l'Ancien Testament. Et ces critères-là sont valables pour nous, mais dans une autre dimension, je vais expliquer tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur était ce qu'on appelle, dans l'hébreu, Kohen, le bâtisseur des ponts entre Dieu et les hommes, et entre les hommes entre eux. C'était des prêtres qui avaient reçu l'onction pour l'office du sacerdoce. Ils travaillaient dans le sacerdoce. Et les sacrificateurs jouaient trois rôles essentiels. Le premier rôle, c'était de servir Dieu dans le sanctuaire. Le deuxième rôle, c'était d'enseigner la loi au peuple. Et le troisième rôle, il devait consulter l'Éternel en faveur du peuple. C'était ça les trois rôles essentiels des sacrificateurs. Et vous lisez dans Lévitique 21, si vous lisez Lévitique 21 à partir du verset 7 au verset 14, la Bible nous parle des restrictions ou encore des règlements concernant l'alliance du mariage des sacrificateurs. Sachant que nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être un royaume des sacrificateurs. Lévitique 21. On nous dit dans ce texte qu'il était interdit à un sacrificateur d'épouser une femme déshonorée ou encore qui n'était pas vierge. Et d'épouser également une femme qui était répudiée ou encore qui était divorcée. Parce que Dieu voulait préserver la pureté et la sanctification dans la race de sacrificateurs qui devaient être saints. N'oubliez pas dans Lévitique 19, 1 à 2, il est dit, vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Et la sainteté touche même l'aspect du mariage et Dieu en parle plusieurs fois dans l'Ancien Testament, aussi bien dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 7 nous parle de la sainteté dans le mariage. Lisez ça entièrement, vous allez comprendre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Donc, la première restriction, il était interdit premièrement à un sacrificateur d'épouser une femme prostituée. Une femme qui était portée au dérèglement moral et sexuel. Et ça aussi, c'est valable pour nous. Dieu ne veut pas que nous puissions traiter des alliances avec des prostituées. Alléluia. Mais une prostituée qui a donné son cœur à Jésus est transformée par le sang de l'agneau. C'est ça la différence. Amen. Parce qu'une fois que nous devenons l'église, nous devenons une vierge pure. Il était interdit au sacrificateur d'épouser une femme déshonorée. Et on déshonorait les femmes comment? De deux manières. Soit en la violant, soit lorsque la femme elle-même allait avoir des rapports extra le lien du mariage. Et là, on disait que la femme était déshonorée. Parce que dans l'ancienne alliance, pour attester que votre mariage était valable, il fallait que le jour de noces, on présente à la famille le drap avec du sang, qui était la preuve de la déchirure de l'hymen lors du premier contact. Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore? C'est très rare de trouver même des femmes vierges dans l'église. Vous êtes calme, c'est comme si vous ne connaissez pas ces choses. Alléluia. Vous, parents qui êtes là, faites tout pour que vos enfants, lorsqu'ils vont se marier, qu'elles soient vierges. Les femmes, et aussi bien les hommes. Ce n'est pas seulement valable pour les femmes, même aussi les hommes. Amen. Et ça, c'est la volonté de Dieu, d'ailleurs. Et Enfin, il était interdit au sacrificateur d'épouser une femme répudiée, divorcée, qui avait été rejetée par son mari. Et comme pour nous, tu n'as pas le droit d'épouser une femme divorcée. Tu dois comprendre d'abord les circonstances de son divorce. Amen. Amen, amen, amen. Autant il y en a qui se marient facilement, mais autant, je vous dirais, pour rompre le lien du mariage et pouvoir refaire votre vie, c'est trop compliqué. Parce qu'il suffit que la femme, par exemple, dans un couple déshonore ou, je dirais, trompe son mari, et ensuite, il y a un divorce qui va être déclaré, cette femme-là n'a plus, aux yeux de Dieu, le droit de se remarier. Si elle se remarie, elle devient une femme adultère. Et la personne qui l'épouse vit aussi dans l'adultère. Et imaginons maintenant que tu vas épouser, comme c'était le cas d'Hérode. Pourquoi Jean-Baptiste lui disait, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Parce que leur union, c'était une union illicite dans l'adultère. Alléluia. C'était interdit. Donc pour nous aussi, c'est interdit, en tant qu'enfant de Dieu, d'aller épouser une femme divorcée si les circonstances du divorce ne sont pas bibliques. Cependant, si son mari l'a trompée et que le mari ne veut plus du mariage et que le mari demande le divorce, elle est libre de pouvoir refaire sa vie. Ça, j'en parlerai dimanche. Amen. C'est très compliqué la situation du mariage. C'est pourquoi il faut bien comprendre ça, bien réaliser cela, parce que on va souvent comme ça et après, on est coincé. Après, on veut sortir. Et si vous avez un passage comme moi, je vous dirais, niette. Non, pas question, tu es rentré dedans, tu es en prison. Reste là. Parce que quand on te dit, va doucement, tu ne veux pas écouter. Comme tu veux dire, allez, vas-y, tu es dedans. Gloire à Dieu, tu vas arrêter jusqu'à la mort. Alléluia. Et la mort, là, ce n'est pas que tu commences à prier, Seigneur, alléluia, enlève la rebouchaka. Son temps est fini. Non, 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 son temps n'est pas encore fini. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, cinquième point, comment faire le choix? Quels sont les critères pour faire un bon choix? Alors, le premier critère, ça c'est pour les célibataires. Tu dois t'assurer, les futurs époux doivent s'assurer que l'un et l'autre, l'homme et la femme, sont réellement nés de nouveau, convertis et engagés à Dieu. Convertis et engagés à Dieu, ça c'est la première des choses. Avant de s'engager dans le mariage, rassure-toi que ton mari, ton futur mari, ta future femme est réellement convertie et qu'elle est réellement engagée à Dieu. Alléluia. Dieu doit être la priorité dans sa vie, pas le mariage. Le mariage, c'est la vie à deux. Mais la priorité, c'est d'abord Dieu. Il y en a la priorité sur le mariage. Ah, parce qu'ils pensent mariage, ils rêvent mariage. Et le jour où ils sont mariés, c'est le mariage, ça devient une idole. Et Dieu est contre ça. Le mariage n'est pas une idole. C'est Dieu qui doit être adoré et non le mariage. Le mariage, c'est votre relation. Vous deux. Amen. Amen, amen, amen. S'assurer que l'homme et la femme ont une relation intime avec le Seigneur. Une constance dans la vie, dans la marche chrétienne. Qu'ils ont la foi en Dieu, qu'ils s'attendent à Dieu. Qu'ils obéissent à Dieu. Les deux doivent obéir à Dieu. Et les deux doivent marcher dans la sanctification. Autrement dit, dans le mariage, l'un va tromper l'autre. D'où la sanctification. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Amen. Deuxième critère. Il faut qu'il y ait l'amour. On ne pousse pas quelqu'un par coup de foudre. Le coup de foudre, ça passe. Tu rêves d'elle. Oh, quand je te vois, oh là là. C'est comme le jour de la Saint-Valentin. Cupido, cling, ting. Oh, tu as eu la flèche. Tu vois les 1000 étoiles. Gring, gring. La femme idéale. 3 jours après, mais je l'aime plus. Coup de foudre. L'amour n'est pas le coup de foudre. Amen. Coup de foudre, c'est passager. Il y a des gens qui ont épousé des femmes canons, mais qui ont trompé leurs femmes avec des bonnes. Oui. Comment vous expliquez ça? Coup de foudre. Il n'y avait pas l'amour. Il est épousé par la beauté, mais pas l'amour. Amen. Il y a deux amours que j'aimerais insister là, dans le cadre du mariage. Il y a l'amour, parce qu'il y a différents types d'amour. L'amour agapé, l'amour filial, fou filéo, et l'amour eros, qu'on appelle eros. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. L'amour filial, c'est l'amour qui nous lie entre familles, des gens de même sang. Et l'amour Eros, c'est la, l'amour Eros, tu ne peux pas l'éprouver avec plusieurs personnes. C'est seulement toi et ta femme et toi et ton mari. C'est cette attirance, cette attraction qui va vous pousser à l'acte. D'accord? À l'acte intime. Vous comprenez un peu? Et il faut qu'il y ait l'amour, pas seulement Eros. Il y en a qui se marient à cause de l'acte de l'amour Eros. Voilà pourquoi ils divorcent demain. Il faut qu'il y ait l'amour agapé. L'amour de Dieu. Tu dois aimer comme Dieu t'aime. Dieu a aimé le monde. L'amour sacrificiel. Même quand ça ne va pas, je t'aime. Alléluia. Parce que Dieu ne t'aime pas quand tout va bien. Il t'aime aussi même quand tu es dé. Tu es, des fois, nous sommes rebelles, non? Il y a des jours, tu te réveilles, tu n'as même pas envie de prier. Tu ne pries même pas. Tu passes devant Dieu. Mais Dieu t'aime quand même. Ce n'est pas pour autant que non. Pareil. Il faut qu'il y ait l'amour agapé et l'amour Eros. Pas de coup de foudre. Troisième critère, vous devez avoir la même vision et les mêmes objectifs. Même vision et mêmes objectifs. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent ensemble sans être concertés ensemble. Vous devez être en accord. Amos 3, verset 3. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à se mettre ensemble parce que la femme pense ça, le mari pense ça. Vous devez vous mettre en accord. Si vous n'êtes pas en accord, eh bien, ne vous unissez pas dans le mariage. Vous allez aller de désaccord en désaccord et ça va aller jusqu'en s'empirant. Alléluia. Quatrièmement, il faut rechercher la volonté de Dieu. Même si vous vous aimez, est-ce c'est la volonté de Dieu? Recherchez la volonté de Dieu dans la prière, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Dieu va vous mettre la conviction. Ne vous mariez pas parce que quelqu'un vous a donné une prophétie. Mariez-vous parce que les critères, vous les remplissez. Et mariez-vous parce que vous êtes convaincu. Dis, je dois être convaincu. Ah, dis, je dois être convaincu. Que c'est ton futur mari, que c'est ta future femme. Vous devez avoir la conviction ferme dans le cœur. Alléluia. Alors, que faire si l'homme te dit, moi je suis convaincu, et la femme dit, je ne suis pas convaincu? Ça, c'est la question. Ah, moi je suis convaincu, c'est toi. Mais la femme, je suis convaincu, ce n'est pas toi. On fait quoi? Divergence dans la conviction. Prière. Priez jusqu'à ce que l'autre soit convaincu. Surtout, surtout, ne manipulez pas les sentiments de l'autre par la prophétie et les visions. Parce que nous sommes le milieu évangélique, c'est très fort et c'est très répandu qu'il y a trop de manipulateurs dans le domaine du mariage. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Mon prophète m'a dit, il y a une vision, une révélation sortie en Afrique. Cet homme, quand Dieu lui parle, vraiment ça ne rate pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? L'union d'un homme et d'une femme, c'est un mystère. Personne ne peut comprendre. Et ça doit venir d'une conviction, d'une révélation personnelle. Mais cependant, vous pouvez être convaincu, avoir des doutes. Là, dans ce cas-là, la prophétie peut venir confirmer. La prophétie n'oriente pas, mais elle confirme. Moi, comme j'aimais tellement être sûr, parce que moi, je n'aime pas me tromper. Hein. Ah non! Ah non, non, non. Surtout dans le ministère, jamais. J'ai demandé à Dieu 15 confirmations avant d'épouser ma femme. J'en ai eu 25. J'ai demandé 15 confirmations. Des gens qui ne me connaissent pas cette situation, que Dieu leur parle. Mais j'étais déjà convaincu. Mais je voulais la confirmation. Là, la prophétie peut venir ou la vision venir confirmer. Mais ne prenez pas la prophétie comme direction, orientation. Non, Dieu me montre la soeur là-bas. Dieu me montre ta femme, ton mari, celui-ci. Non, 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 non. Ni d'un pasteur, ni d'un prophète, ni même de vos propres parents. Parce qu'il y a aussi des parents qui forcent leur mariage. Il faut venir dans notre village. Je connais la famille. Et toi aussi, amen. Vous avez ça surtout au Sénégal. Au Sénégal, à l'Afrique de l'Ouest. On marie des gens comme ça. Oh, vous ou vous? C'est vrai. On vous avait déjà pointé quelqu'un, on l'a préparé. Et au moment opportun, voilà. Proverbe chapitre 30, verset 19. Allons-y vite. C'est l'homme qui va vers la femme. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Proverbe 30, 18 à 19. On nous parle de trois choses insondables, notamment la trace ou encore le chemin de l'homme vers la jeune fille. En matière de mariage, d'amour, la femme ne doit pas faire le premier pas. Quoi qu'il y ait des femmes aujourd'hui très courageuses, ils voient un gars et disent, voilà. Même si Dieu t'a révélé à toi, femme, attends que le mari vienne te chercher. C'est la procédure de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Si Dieu te l'a révélé, alors reste dans la prière. Prie jusqu'à Dieu, à ce que Dieu touche son cœur. Ok? Alors, y a-t-il ici des couples où c'est la femme qui a demandé la main? Trésor, on t'a demandé la main? Alléluia! Attendre. S'il y a des femmes terribles hein, qui te mettent la pression. Ah oui, moi j'en connais. Hein. Elle te met la pression. Je connais un pasteur qui s'est marié. Lui, c'est ta femme qui est venue. Il dit, toi depuis là, tu ne me vois pas. Tu m'as dit, c'est toi mon mari. Accepte vite. Et puis le mari, je vous dis la vérité. Et puis ils se sont mariés. Hein. Tu connais, non? Tu connais? Oh oui. Bon, je ne dirai pas le nom parce que... Alléluia. Non. Ils se sont mariés aussi. La femme. Non. C'est pas bon. Attends. Ne sois pas trop courageux jusqu'à ce point-là. Amen. Alors, il se pourrait aussi que vous êtes convaincu, mais les parents s'opposent. D'accord? Que faire? Prier. Attendez l'accord des parents. Ne vous mariez jamais sans l'accord des parents. Cependant, si les parents ont des convictions spirituelles ou religieuses différentes, prenez d'abord le temps de prier et faites-vous accompagner par les pasteurs. Car il peut y avoir aussi des contradictions ou je dirais des oppositions dans le mariage qui sont d'origine non naturelle, mais spirituelle et démoniaque. Et dans ce cas-là, une autre mesure peut être appliquée. Amen. Mais autrement dit, on ne doit pas et on ne peut pas se marier sans l'accord des parents. Si les parents s'opposent, peut-être que Dieu vous permet d'être davantage patient et de travailler votre cœur jusqu'à ce que vous puissiez vous marier. Alors, dernier point, je vais aller vite. Le temps de fiançailles. Combien de temps les fiançailles doivent durer? Pas trop long, pas trop court. Entre 6 mois et 2 ans. Ne faites pas de fiançailles de 1 mois. À peine connu, à peine non. Et les fiançailles, dans la pensée de Dieu, commencent lorsqu'il y a la rencontre des deux familles. Parce que c'est l'officialisation d'une relation qui était déjà là. Amen. Pendant que la relation n'est pas officialisée, vous avez le droit de rompre. Si tu vois que ça ne va pas, on arrête. Alléluia. Alléluia. Mais une fois que vous amenez ça chez les parents, donc c'est pourquoi réfléchis bien avant d'amener quelqu'un chez le parent. Donc toi, tu amènes là, après, ah non, papa, non, maman, c'était plus la volonté de Dieu. Non! Il fallait réfléchir avant de me présenter pour dire que ce n'est plus la volonté de Dieu. Donc prenez votre temps. Mais une fois que c'est officialisé, les fiançailles rentrent maintenant dans la phase où vous allez maintenant vers le mariage. Il ne faut plus que ça soit trop long. Amen. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Ok, le temps de fiançailles, c'est le moment approprié où vous devez vous apprendre l'un et l'autre. Apprendre qui est l'autre en profondeur. Passer du temps ensemble. Amen. Pour communiquer ensemble, discuter ensemble, parler ensemble, découvrir l'autre, sauf sur le plan physique. Il faut préciser. Amen. Vous devez être sûr que vous êtes dans la bonne voie. Et c'est pendant ce temps que vous devez aussi poser les bases pour votre mariage. Priez ensemble. Lisez et méditez la Bible. Ensemble, posez les bases. Amen. L'organisation de votre futur couple, vous devez les poser là. Il y en a, ils ne posent rien. Quand ils se marient, ils veulent poser et puis ça devient des disputes. C'est pendant les fiançailles qu'on pose les bases. Comment est-ce que vous voulez vous organiser? Qui va gérer les finances? Comment est-ce que vous allez gérer les enfants? Comment est-ce que vous allez gérer et la vie chrétienne, et le foyer, et l'église, et la mission? Toutes ces choses. Ma femme, elle peut vous dire, je sais que je savais depuis longtemps que j'étais missionnaire. Je lui ai dit, tu épouses un missionnaire. Donc partir pour moi, ça ne doit pas être un problème. Et les choses étaient clairement définies. j'ai pas de problème. Vous, vous ne dites pas les choses. Et pendant les fiançailles, les choses ne sont pas définies. Et après, ça devient des difficultés. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que vous allez gérer votre ministère? Comment est-ce que vous allez travailler? Il y en a, le travail après prend la place sur la vie familiale. C'est un danger. On travaille trop, on n'a pas le temps pour la famille. C'est un danger. Si vous le faisiez, faites-le avant le mariage, pas après. Amen. Amen, 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 amen. Vous devez vous organiser pour avoir du temps ensemble. Le temps de fiançailles se vit dans la pureté, dans la maîtrise de soi. Évitez d'être seul à seul, tard et dans des endroits isolés, seul à seul. Tu n'es pas du béton, tu n'es pas du fer. En plus, c'est la personne que tu aimes. Après, tu vas vraiment. Attention. Il faut l'abstinence. Amen. Pour deux raisons. Pour la crainte de Dieu, craindre Dieu invisible, où que vous soyez. Et de deux, pour le respect de l'autre. Il y a des gens, le jour du mariage, ne sont pas pressés de rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a déjà consommé avant. Moi, demandé à ma femme, j'étais trop pressé, j'ai dit, rentrons. Non, elle est là. Nous, on est rentré à quelle heure? 3h du matin, non? Et c'était trop tard, mais c'est parce qu'il y avait même la famille. Moi, j'aime bien ces histoires. On a fait déjà l'église, c'était bon. Il fallait encore. J'ai dit, mais rentrons. Mais il y a des chrétiens, ils sont là jusqu'à 7h du matin. Oui, suspect. Laisse la famille, mais vous, vous êtes pressé, oui ou non? Vous êtes trop spirituel. Vous voulez pas aller spirituel. Moi, je parle des choses concrètes. Les fiancés, depuis longtemps, vous attendez, ça brûlait un peu, tout ça. Et puis le jour même, tu vas encore attendre jusqu'à 8 heures. Non! 1 heure, c'est bon, allons-y. Jésus est Seigneur. On va briser les tabous. Ici, il n'y a pas de tabous. On parle des choses qui sont concrètes. Amen, 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 amen. Donc, à partir de ce samedi, Jonathan, je vais vous surveiller. Si vous êtes jusqu'à 6h, frère. Amen. Tout rapport sexuel avant le mariage est condamné par Dieu, est une souillure. Amen. Ok, je vais vite pour finir. La prière est très importante parce que pendant le temps de fiançailles, vous allez voir les sauts d'humeur. Le gars qui se fâche, il fait 5 jours, il ne t'appelle pas. Vous êtes fiancé, vous savez, vous étiez fiancé, vous savez, non? Il est fâché, elle est fâchée. Et si vous ne priez pas, vous ne saurez pas vous mettre en accord par rapport à toutes ces difficultés. Vous ne saurez pas vous mettre en accord par rapport à la compatibilité de certaines humeurs, des caractères, de toutes ces choses. Des caprices. Il y en a, c'est des femmes très capricieuses, des hommes très capricieux. Vous allez vous disputer pour rien, avoir de mauvais désirs. Et la prière va vous aider à vous contenir, va vous aider à pouvoir avoir la paix dans vos cœurs. Amen. Et je précise que le mariage est un engagement sacré. Le mot fiancé, dans l'ancien français, veut dire fiance. Et le mot fiance signifie littéralement un engagement solennel en vue du mariage. Ce qui veut dire que le fiançaille ne doit pas se rompre. Je vous donne un texte, je crois que c'est le dernier. Proverbe 20, verset 25. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Le jour où tu amènes la bague de mariée, de fiançailles, tu enfiles, c'est un engagement, c'est un vœu. Et ce n'est pas à prendre à la légère. On voit des gens vivre dans le fiançailles, tromper leur fiancé pendant les fiançailles. C'est un problème. Ou encore, ils sont fiancés et ils vivent déjà en couple. Les fiançailles ne nous donnent pas le droit de vivre en couple. Regardez, lisez l'histoire de Joseph et Marie. Ils ne vivaient pas ensemble. Amen. 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 Cependant, ils étaient mutuellement engagés. La preuve, quand Joseph a voulu rompre, Dieu est intervenu. Il ne pouvait pas intervenir si quelque chose n'était pas sacré. Il est intervenu parce que c'était sacré. Donc, considérez les fiançailles comme quelque chose de sacré, comme quelque chose qui honore Dieu, qui a une grande importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Avant d'aller aux fiançailles, il faut que les gens réfléchissent. Vous qui devez encadrer les jeunes, encadrer les autres, vous devez demander, pousser les gens à réfléchir avant.
On réfléchit avant. Alléluia. Et pendant le temps de réflexion, tu peux venir voir le pasteur ou un aîné. Demander le conseil, tout ça, tout ça. Mais une fois que c'est officiel, tu présentes la personne à la belle famille, à ta famille, le respect doit s'imposer. Et la famille a aussi le droit de faire des investigations sur toi et de te connaître. Moi, on m'a menacé. Le beau-père m'a dit, écoute, si c'est pour des aventures, pas chez moi. J'ai dit, ouais. Ah mais oui, je vous dis la vérité. Je le dis avec, j'ai pas honte. Amen. J'ai compris, donc ici on blague pas. Hein. Correct comme ça. Mais oui, parce qu'il y a des gens, il y a trop d'aventuriers. Il y a trop de gens qui ne sont pas sérieux, qui se présentent chez les parents, qui prennent les parents comme des jouets. Hmm? Toi, une jeune fille, tu as présenté Albert, tu viens présenter Jean-Marc, tu viens présenter, je ne sais pas, Gaylor, tu présentes... combien tu vas présenter? Prends le temps. Amen. Amen, 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 amen. Et il est primordial de préserver sa virginité avant d'entrer dans les fiançailles. Amen. Pas de flirt. Pas de films pornographiques. Évitez toutes ces choses. Autre chose qui est très important de savoir avant d'entrer dans les fiançailles, vérifiez votre groupe sanguin. Je reprends, vérifiez les groupes sanguins. Parce que cela souvent a des impacts dans la vie des enfants. Un homme qui a un groupe sanguin AS, qui épouse une femme groupe sanguin AS, auront des enfants SS. Qui auront tout le temps des difficultés. On risque d'avoir des enfants avec la drépanocytose. Il y en a, c'est des malformations. D'autres encore, il y a qui traînent peut-être une maladie telle que le VIH. Et après, tu vas dire, Dieu m'a déçu. Non. La Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Alléluia. Alléluia. Être chrétien n'exclut pas la prudence et la vigilance. Alléluia. Si c'est déjà fait, on est déjà marié, pas de souci. Mais là, je parle à ceux qui ne sont pas encore engagés. Vous voulez vous engager, allez faire un groupe sanguin. Dans tous les cas, moi ici, je l'impose. Je l'impose. Amen. Pour vous préserver et pour nous préserver. Et le mariage conduit vers le mariage. Le fiancé conduit vers le mariage. C'est le chemin vers le mariage. Ne vous mariez pas à cause de la beauté physique. D'abord. Alors moi, j'aime déjà les filles qui ont des cuisses fines, des genoux là, des jambes comme ça, comme Lucky Luke. Non. Oh, j'aime les petits, j'aime les grands, j'aime les noirs, j'aime les marrons, les mauves, j'aime les cheveux, comment, j'aime les yeux bleus. C'est pas mauvais, mais c'est pas primordial. Quand on a présenté Ève, Adam a dit, voici cette fois-ci qui est os de mes os, chair de ma chair. L'os qui est à l'intérieur qu'on ne voit pas. Voyez d'abord l'intérieur, le cœur, avant de voir la forme ou la morphologie. Ne vous mariez pas en vous appuyant sur la position sociale des gens. Tu regardes, ah non, lui il est riche. Ah, moi je vais entrer dans cette famille-là. Oh non, lui il a les moyens, les biens matériels, l'argent, c'est un piège. Beaucoup se sont mariés comme ça et ils ont souffert dans leur vie. Ne vous mariez pas pour entrer dans une famille où il y a la renommée. Une grande famille, c'est un grand nom. Un nom de ceci, fils à papa, fils de fille de. Non, c'est un piège. Amen. Et ne vous mariez pas non plus pour des plaisirs sexuels. Mariez-vous pour avoir un partenaire, une partenaire qui sera pour la vie. Amen. Aussi bien dans la vie sociale, physique, spirituelle, conjugale et dans tous les aspects. C'est la raison pour laquelle nous nous marions. Que Dieu bénisse sa parole dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons